Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on se demande si nous détestons les gros, pourquoi la discrimination anti-gros reste plus que jamais ancrée dans tous les pans de la société, quelle responsabilité collective dans la situation des personnes obèses qui ont plus de mal à trouver un emploi que les autres ou qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Coup de projecteur ce matin sur les discriminations infligées aux gros par le corps médical, les employeurs, les médias ou encore nous tous collectivement par nos regards parfois peu bienveillants dans la rue ou ailleurs. Comment les personnes obèses vivent-elles dans une société qui a fait de la minceur un paradigme? Nous attendons vos questions et témoignages par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Josué et Colline attendent vos coups de fil. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez Il était une fois dans le web de Julia Foyce. Bonjour Julia.
Bonjour Ali, bonjour.
Tout va bien?
Oui, tout va très bien.
À tout à l'heure.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Le gros, tu conduis sur le mauvais côté de la route.
Hein? Qui est gros? Je ne suis pas gros. J'ai compris. Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne suis
là-bas,
pas gros.
Là-bas, sont deux.
Un extrait d'Astérix chez les Bretons en 1986 avec le célèbre personnage d'Obélix. Notre société déteste-t-elle les gros? Pour répondre à cette question, trois invités. Bonjour Gabrielle Dédier.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice du webzine culturel Ginette le Mag et vous publiez aux éditions Goutte d'Or un formidable témoignage, On ne naît pas grosse. Bonjour Sylvie Benkemoun.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous êtes présidente, vice-présidente du GROS. Le GROS, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le poids. Et puis nous attendons Nathalie Rigal, coincée dans les embouteillages, psychologue du développement de l'enfant, enseignante, chercheuse à l'université Paris-Nanterre et spécialiste des troubles alimentaires chez l'enfant. Alors, autour de la table, est-ce que vous considérez que dire qu'une personne est grosse, est-ce que c'est faire preuve de discrimination?
Non.
Sylvie Benkemoun. Gabriel Dédier, allez-y.
Pardon, je suis désolée.
Allez-y.
Non, c'est être gros, c'est un adjectif comme être grand, petit, roux. Enfin, il y a pas de raison de mettre une connotation péjorative à un adjectif.
Et c'est parce que la stigmatisation pointe du doigt les personnes grosses que c'est devenu un problème. Mais c'est le mot consacré. Et c'est pas enveloppé, c'est un petit peu. Et rond, non, c'est gros. Les gros sont gros.
Gabrielle Dédier, votre livre débute sur une scène très violente dans une auberge de jeunesse le 17 septembre 2016. Une Américaine vous filme dans votre chambre à 2h du matin alors que vous dormez et cette Américaine vous crie des insanités.
Ouais, elle me crie des insanités. Elle m'appelle Biggie, donc la grosse. Elle a son téléphone avec une lampe torche. Elle dit que je suis sur YouTube et elle crie que je la dégoûte. Enfin, les insultes.
Je la cite. Hein. Mmh. Écoute-moi la grosse, j'en peux plus de ta gueule. Depuis que je suis arrivée, tu me dégoûtes avec ton gras. T'es laide, t'es grosse, t'es dégueulasse, salope.
C'est ça. Et moi je comprenais rien. Je rentrais d'une soirée, je venais prendre ma douche, je me suis couchée et je suis réveillée par cette nana qui pète les plombs en fait. Ça a duré des heures en fait. J'ai pas réussi à la calmer. Mais c'est super violent. Mais c'était juste pas la première fois que je me faisais agresser. Là c'était quand même particulier. Mais c'était juste une violence parmi d'autres, en fait.
Et vous avez 37 ans, Gabrielle Dédier, et depuis une vingtaine d'années, les gens se lâchent devant vous, dans votre dos.
Sans filtre.
Ce qui gêne, c'est votre présence, c'est votre poids.
Oui, et le simple fait que j'occupe l'espace public pose un problème à certains, visiblement. Et j'ai pas besoin d'aller m'asseoir à côté d'eux dans le métro pour que ça les gêne. Enfin, c'est juste ma simple apparition. Et de me voir, ça engendre des colibés, mais pas que. Si c'était juste se faire moquer dans la rue, mais c'est vachement plus étendu. La grossophobie, c'est une discrimination. Enfin, plus. Au-delà de la moquerie.
On peut parler, Sylvie Benkemoun, de grossophobie, comme il existe une homophobie. Et c'est quoi d'ailleurs la grossophobie?
Alors, la grossophobie, c'est un terme un petit peu impropre, mais qui est utilisé pour désigner effectivement cette haine qu'on vient de percevoir. Mais le terme ne devrait pas être celui-là, parce que ça serait la phobie des gros. Il n'y a pas de maladie qui serait une phobie des gros.
Mais alors, enfin... je rappelle que le concept est apparu dans les années 1970 aux États-Unis, oui, et qu'il apparaît en France dans le livre de la comédienne Anne Zamberland, Coup de gueule contre la grossophobie.
Absolument. Absolument. Donc, ce sont des termes qu'on a gardés, puisqu'ils sont historiquement connotés, mais si on les prend sur avec un sens psychologique, ça n'a pas de sens. Mais comme le symbole est fort, il y a beaucoup de symboles comme ça américains, comme BBW, FA et tous ces termes-là, qu'on a gardés parce que historiquement, ils sont à l'origine de certains mouvements et ils sont à l'origine d'une contestation de ces facteurs.
Gabrielle.
J'ai envie d'ajouter que pour qu'on reconnaisse une discrimination, il faut la nommer. Donc je suis d'accord, enfin le mot il est peut-être pas adéquat, mais on ne peut reconnaître une discrimination que si elle a un nom.
Comment distinguer la simple vanne de la grossophobie, Sylvie Benkemoun?
La grossophobie, on sent une haine, un dégoût. Et puis moi, j'ai envie d'ajouter que c'est permis parce qu'on a l'impression que son devoir de citoyen, c'est de dire aux gros qu'ils doivent maigrir. Je pense que ça a été explicitement toléré depuis la lutte contre l'obésité, qui est une question de santé publique. Les gens se disent que s'ils vont dire à un gros, tu sais, t'es gros, tu dois maigrir, ils font œuvre de citoyenneté. Alors, à la fois, c'est pratique parce que ils ont un bouc émissaire quand ils sont violents. Ils ont aussi la possibilité de se plaindre parce que 80% à peu près de la population française est au régime. Donc, est toujours frustré par rapport à l'alimentation. Et quelqu'un de gros, c'est quelqu'un qui doit ne pas être frustré et qui ne doit pas être sous contrôle. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour alimenter cette grossophobie.
Gabriel Dédier, sur la frontière entre la vanne et la grossophobie.
Je pense que j'arrive à l'apercevoir. et ça dépend du contexte. Moi, je peux rire de tout. J'ai aucun problème avec ça.
De vous-même d'abord peut-être.
Mais vraiment j'ai pas de problème. Pour moi la grossophobie c'est vraiment la discrimination qui fait que on refuse de me filer un travail parce que on suppose que j'ai une carence de la volonté parce que je suis fainéante ou ce genre de choses. La distinction. Enfin moi je pense que c'est une histoire de contexte.
Sylvie Benkemoun, l'impératif de minceur domine encore et toujours notre imaginaire collectif.
De plus en plus, il domine vraiment, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une compétence et que si on écrivait un manuel de savoir-vivre à l'heure actuelle, être mince, ça serait dans le manuel de savoir-vivre. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important.
Alors la discrimination anti-gros reste très ancrée dans notre société, parfois sous le vernis d'une bienveillance sournoise, Gabrielle Dédier. Racontez-nous des scènes, une scène de la grossophobie ordinaire, apparemment bienveillante.
Une scène de la grossophobie ordinaire, je fais mes courses dans un magasin. J'achète une tablette de chocolat, on m'arrête en me disant « Ah non, faut pas, ça va vous faire du mal. » Ça, c'est sous couvert de bienveillance, mais j'ai envie de dire à ces gens que les médecins n'ont pas réussi à nous faire maigrir. Il y a 95% des régimes qui sont des échecs. Alors, c'est pas vous, avec vos bons conseils, qui allez réussir à faire quoi que ce soit.
Sylvie Benkemoun, petite scène de la grossophobie ordinaire.
Je vais vous donner une anecdote personnelle. Dans le passé, j'ai été dentiste. C'était l'été, il faisait chaud comme aujourd'hui. J'étais en train de soigner une carie à une patiente qui me dit tout de go, vous ne sentez pas mauvais pour une grosse.
C'est horrible.
J'ai hésité, je me suis demandé si j'allais lui planter la fraise dans la joue. Je ne l'ai pas fait, rassurez-vous.
Julia Foyce.
Fanny son dentiste, mais c'est un truc que je ne saurais jamais faire, personnellement.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter du quotidien, vous avez rencontré des femmes fortes dans tous les sens du terme.
Oui, elles sont fortes aussi parce qu'elles ont pris leur courage à deux mains pour faire du sport, parce que ce n'est pas toujours évident de faire du sport, parce que justement, il peut y avoir des regards pas toujours bienveillants. Et une association Allegro, fortissimo, a trouvé une solution. Elle propose propose des cours d'aquagym pour des personnes en surpoids.
Alors, vous pouvez témoigner, poser vos questions au 01 45 24 7000, hein, que vous soyez victime de discrimination, de grossophobie, ou que vous reconnaissiez votre gêne face à une personne obèse. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Et moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
Vianney, moi, aimez-toi. Et c'est pour vous, Julia Foyce.
C'est France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, ça pourrait être aussi pour Antoine Lee. Hein.
C'est vrai que j'adore.
Non, oh, non, c'est pour moi, c'est pour moi.
10h20 et on se demande ce matin si notre société déteste les gros avec Gabriel Dédi, auteur de « On ne naît pas grosse », d'Isabelle Benkemoun, psychologue.
Non, Sylvie.
Sylvie Benkemoun, pardonnez-moi Sylvie. Et avec Nathalie Rigal, Nathalie sans H. Hein, et vous êtes Nathalie Rigal, psychologue du développement de l'enfant, enseignante chercheuse à l'Université Paris-Nanterre et spécialiste des troubles alimentaires chez l'enfant. Et vous venez d'arriver, bienvenue. Et nous accueillons Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour, bonjour à tous et merci pour votre émission.
Merci. D'où appelez-vous, Chantal ?
J'appelle de Normandie.
D'accord. Et vous aviez envie de nous parler de votre mari ?
Oui. Moi, j'aurai 100 ans dans 40 ans. mon mari est plus jeune que moi de 2 ans. Il fait 1m75 pour 72 kilos. Il est beau comme un dieu. Et moi, je suis obèse à 105 kilos. Mmh. Et nous avons 20 ans de mariage. Donc, mon mari est quelqu'un de très élégant, en couleur, etc. Donc, je m'habille également en couleur comme lui. Donc, déjà ça, nous avons énormément de charisme. Nous sommes beaucoup en week-end sur Deauville et autres. Donc, rien que notre couple provoque de la haine et de la jalousie, les yeux des femmes, il y a des revolvers dedans. Et si j'ai le malheur de manger une glace, alors là, j'ai l'impression qu'il y a une horde de haine de, de jugement, de ça ne m'atteint pas du tout, mais par contre, ces femmes-là se trouvent très mal.
Sylvie Benkemoun, sur le témoignage de Chantal.
Merci pour ce témoignage. J'ai envie de vous dire, de la haine ou de l'envie ?
Oui, moi je dis que c'est de l'envie. Voilà. Mais pour elles, ça se tourne en haine. Elles vont très mal. Alors que moi, malgré mon poids, effectivement, j'aimerais peser moins. Mais de toute façon, par exemple, un médecin classique va me dire que je mange trop. Alors qu'un nutritionniste me dit, je me demande comment vous vivez avec le peu que vous mangez. Voilà.
Sylvie Benkemoun. Ça vous laisse sans voix, Sylvie Benkemoun.
Non, mais effectivement, ce témoignage très positif est intéressant et je pense que c'était bien de le partager. Et je pense que c'est bien loin de ce que vous mangez ou de ce que vous mangez pas. Je crois que vraiment, ne regardez pas les regards autour de vous et continuez à montrer ce beau couple qui va faire envie et auquel on va pouvoir s'identifier.
Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir appelé. Gabriel Dédier, dans quelle mesure le corps mince idéalisé par nos sociétés peut provoquer la haine de soi quand on est obèse ?
Oh ben, on n'a pas besoin d'être obèse pour avoir la haine de soi, surtout quand on est une femme. La bienveillance, les femmes ont rarement un regard bienveillant sur leur corps. Être grosse, ça commence dans la tête. Moi, j'ai des têtes copines qui sont persuadées d'être grosses. Mais d'ailleurs, dans tous les retours que j'ai, toutes les femmes me racontent tous les complexes qu'elles ont. Donc, déjà, il n'y a pas besoin de ça pour...
Sylvie Benkemoun. Non. La question, c'est est-ce que, justement, cet idéal du corps mince, est-ce que ça provoque une haine de soi chez les personnes obèses ?
Alors, je ne pense pas que ça provoque une haine de soi chez tout le monde. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on accepte la stigmatisation, on va essayer de se conformer à ce modèle. Si par contre, on se dit qu'on est différent, on va exploiter cette différence et on va en faire quelque chose. Mais ça, c'est tout un parcours, c'est un trajet d'acceptation qui est long, plus ou moins long. Ça dépend de la famille dans laquelle on a été. Dans des familles où il n'y a pas de problème de poids, où on ne pointe pas l'histoire du poids, où c'est bienveillant, où après il y a une école plus ou moins bienveillante, ça se passe plutôt pas mal. Donc je crois que ça dépend vraiment de son passé, de son milieu et de sa faculté à réagir.
Nathalie Rigal.
Oui, bonjour. Oui, ce dont parle Sylvie, c'est justement la question de l'autoréalisation de la prophétie, c'est-à-dire effectivement quand on est stigmatisé, quand on nous met dans une boîte, on va avoir tendance, si on accepte les critères qui nous sont attribués, à se comporter de la façon qui est prévue par la société. Les gros sont fainéants, manque de contrôle. Or, il faut bien le comprendre, il ne s'agit absolument pas d'un manque de volonté dans le cas de l'obésité et du surpoids.
Alors Gabriel Dédier, dans votre cas, il s'agit d'obésité morbide, hein. C'est le terme médical. Quelle est la référence médicale pour justement juger d'une obésité morbide ? C'est quand on dépasse un certain seuil d'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire une norme internationale calculée à partir du rapport entre le poids et la taille ?
C'est ça, il y a une formule scientifique qui donne un chiffre.
Et, culpabilisant.
Culpabilisant. En plus, il faut vraiment revoir cette notion d'IMC pour des tas de raisons. Mais ça donne un chiffre. En gros, ça vous dit qu'entre 18 et 25, vous êtes normal. Qu'à partir de 25, vous êtes en surpoids. 30, vous êtes obèse. 40, vous êtes obèse morbide. C'est tout. C'est vraiment de la mathématique.
Alors aujourd'hui en France, une personne sur 6 est considérée comme obèse. La proportion d'obèses est quasiment la même entre les hommes et les femmes ?
Oui, les femmes sont 16% des femmes sont obèses, 14% des hommes. Par contre, pour les recours à la chirurgie de l'obésité,
la chirurgie bariatrique,
80% des opérés sont des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui parle de la société.
Et la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité a quadruplé entre 2001 et 2015. Les femmes subissent une pression sociale qui peuvent les conduire à se faire retirer une grande partie de leur estomac ou à se faire poser un anneau dans l'estomac. Sylvie Benkemoun.
Oui, malheureusement, ces opérations se multiplient parce que les résultats sont spectaculaires quand on les voit à court terme et qu'on ne parle pas suffisamment de ce qui se passe à long terme par rapport aux conséquences et aux complications psychologiques. Donc, comme on présente beaucoup les pertes de poids miraculeuses, beaucoup s'y engouffrent, plus ou moins bien préparés, et c'est là où réside le problème. parce que de toute façon, à l'heure actuelle, il n'y a rien de miraculeux.
À propos de perte de poids miraculeuse.
Une personne, une année, une transformation étonnante. Voici Stacy, une mère de famille submergée par les charges qui pèsent sur ses épaules. Face à de telles contraintes, elle n'a pas su maîtriser son poids. Heureusement pour elle, je m'appelle Chris Powell et je suis le spécialiste des transformations spectaculaires. Quand il s'agit d'obésité morbide, chaque fois que tu me diras « je peux pas », je te prouverai le contraire.
Un peu plus des deux tiers de votre corps est constitué de graisse.
T'es sérieux, hein?
Pendant un an, Stacy va apprendre à se recentrer sur elle.
La plupart des gens pensent qu'il est impossible de perdre 110 kilos en un an. Vraiment? Vas-y!
Pour réussir sa métamorphose, Stacy va être amenée à se surpasser comme jamais elle ne l'avait imaginé.
Prête pour ta nouvelle vie?
Je pense qu'à ça.
Je veux un oui!
Je peux y arriver et j'y arriverai.
Elle arrivera à la pesée finale, transformée en 365 jours.
Un extrait de l'émission Relooking Extrême Spécial Obésité, rien que le titre, diffusé sur W9. Gabriel Dédier, vous regardez cette émission. Hein,
oui.
Il vous est arrivé de la regarder. Quel est le principe du programme qui met en scène le jeune beau gosse mince Chris Powell? Et qu'est-ce qui vous choque dans cette émission?
Ce qui me choque, en fait, c'est...
Enfin, juste, oui. Déjà la bande-annonce, déjà.
Mais en plus, ça, on n'a pas les images, mais il y a des gens qui sont en train de tracter des avions. Enfin, il y a des contre-plongées sur Chris. C'est quand même formidable. Hein. Donc oui, je la regarde, mais
qu'est-ce qui vous choque?
Bah, ce qui me choque, c'est moi j'appelle ça un freak show, hein, déjà. C'est
un spectacle de foire.
C'est un spectacle de foire parce que donc on prend cette personne Stacy qui est au bord de la rupture. Elle est seule à bosser, son mari il est handicapé, elle est obèse et puis il y a le beau Chris qui débarque dans sa vie et qui va la faire maigrir et en fait on assiste à tout son cheminement psychologique parce qu'il y a toujours des drames qui sont derrière ça et à côté de ça elle fait 6 heures de sport par jour et la morale de ça c'est que si t'es gros c'est vraiment un problème de volonté parce que Stacy elle avec son mari ses gosses elle a réussi à maigrir à perdre 110 kilos
et on regarde ce type de programme avec fascination et répulsion.
Oui, bah oui, parce que, enfin, il n'y a pas de suspense. Enfin, s'il nous montre l'émission, c'est que Stacy va perdre 110 kilos. Il n'y a pas de suspense. Mais la façon dont c'est fait, c'est hyper addictif.
Sylvie Benkemoun, qu'est-ce que ça raconte de nos sociétés occidentales, ce type de programme?
Eh bien, qu'on met en scène le malheur des autres, la misère, et que c'est inhumain. Quand on sait que c'est avec ces façons un petit peu courtes de penser, qu'on est passé de surpoids à obésité importante. Donc, de toute façon, on sait que dans le futur, ça va être dramatique parce qu'il va y avoir des conséquences. Donc, c'est se jouer un petit peu de la santé physique et psychologique des gens. Et ça devrait être interdit. Et je pense que dans cette période de moralisation, moi j'ai envie de parler de la moralisation de toutes ces émissions. Je pense qu'il faudrait s'y pencher.
Qu'est-ce que vous pensez justement du projet d'émission de la chaîne M6 qui projette donc une série documentaire sur la chirurgie de l'obésité? Le but de l'émission, ce sera de suivre des personnes souhaitant réaliser une opération de chirurgie bariatrique. Sylvie Benkemoun.
Eh bien, je trouve que déjà, les personnes choisies ne sont absolument pas compétentes. Elles ne sont pas médecins. Elles vont en faire encore du grand spectacle.
Parlez des deux présentatrices.
Karine Lemarchand et Christina Cordula. Quand on voit, en fin de compte, leur créneau, c'est le relooking, elles sont absolument incompétentes. Et puis, on ne doit pas faire ce type de télé-réalité.
Gabriel Dédier.
Moi, je suis scandalisée que l'hôpital ait accepté de bosser avec Potiche Prod. Alors, Potiche Prod, ce n'est pas pour me moquer, c'est vraiment le nom de la boîte de prod. Et je suis scandalisée qu'un hôpital accepte de travailler avec comme ça et de faire une série. Mais oui, c'est... C'est indécent. Ils sont quand même allés caster. Je suis inscrite sur plein de groupes de gens qui font de la chirurgie bariatrique. Ils vont caster sur ces groupes-là et on sait à quel point il y a de la misère sur ces groupes-là. Je trouve ça, mais enfin, vraiment, c'est au secours. Enfin, il y a aucune bienveillance là-dedans. C'est juste du show, quoi.
Gabriel Dédier, j'aimerais qu'on revienne sur votre histoire. Quand avez-vous commencé à grossir? Il y a une vingtaine d'années, c'est ça?
Il y a 20 ans, ouais, pile poil, quasiment.
Pendant votre classe de première?
Oui.
Alors vous écrivez une chose assez terrible, hein. Vous écrivez que vous êtes transformé en Quasimodo.
Ouais, en monstre.
C'est dur envers vous-même.
Bah, en tout cas, c'est ce que je vois moi. Enfin, c'est ce que je vois moi. J'ai pris 60 kilos sur moins d'un an. C'est compliqué.
Suite à un problème de santé.
Oui, en fait, j'étais partie pour perdre 10 kilos. Hein. Je vais voir un premier endocrino. Il me diagnostique une maladie que je n'ai pas. Il me soigne pour cette maladie que je n'ai pas avec des cocktails d'hormones. Là, je prends d'abord 30 kilos. Et puis à côté de ça, il me met au régime parce que bah, je grossis. Et à partir de là, j'ai un rapport déviant à la nourriture qui est en train de naître. Et c'est le début de l'enfer, en fait.
Et à la maison, le poids reste un sujet sensible. Votre mère entretient un rapport compliqué avec la nourriture. Et pour vos parents, la maigreur, bah, c'est synonyme de beauté. Et tout ce qui n'est pas maigre est gros, donc laid.
Bah, quand mes parents se sont rencontrés, enfin, ma mère, c'est bien en 32. Mon père en 34, et pour eux c'est l'apogée de leur beauté cette période-là. Et donc oui, ils ont, enfin tous les deux ont un rapport un peu foireux, si je peux me permettre, à la nourriture. Et voilà, enfin pour eux c'est le moment où ils ont été le plus beaux. Et pour eux, donc oui, on est grosse à partir du 38. Mais c'est surtout que, enfin, ils ont aussi peur des violences que ça engendre, et ils m'ont vu plein de fois rentrer à la maison en pleurant. Donc
Nathalie Rigal, difficile de grandir dans une famille entre guillemets grossophobe. Quelle est la responsabilité des parents qui parlent sans cesse de poids à leurs enfants?
Alors, c'est vraiment une question très importante à aborder, parce que c'est vrai qu'effectivement on ne parle pas assez souvent de ce qu'on appelle les weight talks, c'est-à-dire le fait de parler du poids, de l'apparence au sein des familles. On en parle beaucoup à l'école, dans la société en général, mais ce phénomène à l'intérieur de la famille est mal connu. Or, effectivement, il y a, en tout cas dans les études américaines, en France, les chiffres ne sont pas encore suffisamment bien étayés, mais 60% des familles dans lesquelles ces moqueries autour du corps, ces discours autour de l'apparence, ces commentaires sur le poids, le fait de donner des petits noms bouboule au dernier, de dire bah, « attention, tu manges trop, tu vas grossir », tout, donc
elle peut être légitime, cette préoccupation de la santé, le fait de demander à son enfant de manger moins de bonbons, moins de gâteaux.
Elle peut être légitime, mais seulement dans certaines conditions. Et ça, c'est au médecin de le dire, et surtout pas aux parents de se prononcer, parce que finalement, des enfants gros ou en surpoids, il n'y en a pas tant que ça. On parle des 15% qui vont pas bien, mais il reste 85% d'enfants qui ont une corpulence tout à fait normale et qui contrôlent très bien leur comportement alimentaire. Donc, elle n'est pas forcément légitime. Et surtout, ces moqueries ne sont pas spécialement dans des familles où il y a des enfants gros, à part le terme de bouboule, mais ces messages, ces discours, ces commentaires autour du poids et de l'apparence sont vraiment très importants dans les familles et ont des conséquences très négatives.
Quoi, sur les troubles alimentaires futurs?
Alors, éventuellement, donc par exemple, quand il y a des moqueries, des discours dans les familles où l'enfant n'est pas gros, ça peut booster le processus de prise de poids de façon très importante, avec ce qu'on appelle le cercle vicieux de la prise de poids, on se moque de vous, on vous dit que vous mangez trop. Vous allez dans votre chambre et justement vous faites cette autoréalisation de la prophétie. Je fais ce qu'on attend de moi, ok, vous êtes malheureux, et pour vous calmer, vous mangez, ça augmente la prise de poids et donc c'est un cercle vicieux.
Gabriel Dédier.
Oui.
Comment ça se passait à la maison? Est-ce que vous avez subi ce genre de moquerie ou ce discours permanent sur le poids, sur votre alimentation?
En fait, moi, c'était vraiment paradoxal parce que j'avais ces remarques sur le fait que j'avais un peu de bide et voilà, mais à côté de ça, ma mère, elle a ce besoin pathologique de nous nourrir et de nous nourrir trop.
Alors qu'elle-même fait attention à ce qu'elle mange.
Voilà.
De façon très stricte.
Voilà, et elle peut vous préparer un plat gargantuesque et manger à côté de vous une tomate.
C'est par exemple quand vous êtes en période de régime, vous revenez chez vous dans le sud de la France, et elle vous prépare des plats des plats très caloriques. Et là, ça crée évidemment de la tension entre vous.
C'est ça, mais en même temps, je pense que, enfin, chez moi, on n'est pas du genre à on n'a pas vraiment de relation où on discute. Et je pense que tout passe par la nourriture.
Sylvie Benkemoun.
Moi, je pense que la société nous montre également que on nous dit qu'il faut être maigre, qu'il faut pas grossir, et les émissions sur la cuisine se multiplient. On est une société anorexique. Ce sont les anorexiques qui font ça, qui vont faire de la cuisine pour les autres, qui aiment les bouquins de cuisine, et nous, on fait ça. C'est-à-dire qu'on montre des tas de cuisine. Et on dit aux gens, il ne faut pas manger.
Julia Foyce.
Non, je me disais qu'en fait, tous ces discours-là sur les enfants commencent bien avant qu'ils soient en âge de manger des gâteaux et de boire des sodas. Parce que j'ai un petit qui a 10 mois, et depuis qu'il a une heure, il mange beaucoup, il mange bien, et visiblement ça lui fait extrêmement plaisir. Mais combien de fois j'ai entendu, mais il est plus grand que gros, non ? Enfin, il n'est pas gros, donc ça va. Ou alors, bah heureusement que ce n'est pas une fille. Hein. Et je me dis que si ça commence alors qu'il n'est même pas en âge de parler, on imagine derrière la pression qu'il peut y avoir sur les parents et sur les enfants.
Nathalie Rigaud. Alors,
effectivement, votre enfant a ce qu'on appelle très certainement un tempérament excitable par rapport à la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui adorent manger, ça leur procure du plaisir. Et ceux-là, c'est vrai, sont un tout petit peu plus à risque de développer du surpoids s'ils n'arrivent pas à contrôler ce plaisir. Mais les interventions parentales peuvent participer à dégrader cette capacité de s'autoréguler.
C'est-à-dire que lui, de savoir s'il va bien ou pas.
Oui, oui.
Il mange. Enfin, c'est juste pour le lait, c'est tellement dégueulasse que honnêtement, s'il en mange, c'est qu'il a besoin.
C'est juste pour répondre dans les familles en général, en sortant un peu de votre cas en particulier. Effectivement, il y a des parents qui s'inquiètent de voir leur enfant qui a très bon appétit, mais l'enfant qui le gros mangeur ne devient pas forcément gros. Et il peut le devenir si vous exercez trop de contrôle. Trop de contrôle. Perturbe la capacité à manger en fonction de la faim et de la satiété.
01 45 24 7000 pour poser vos questions et témoigner. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that. Megan Trainor.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h41 et on se demande ce matin si notre société déteste les gros avec Gabriel Dédier qui publie On ne naît pas grosse et avec les psychologues Isabelle Sylvie Benkemoun décidément et Nathalie Rigaud. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler Isabelle. Bon, écoutez, oui.
Faudra, parce qu'elle est belle.
Faudra explorer mon inconscient et avec Antoine Ni, notre grand reporter du quotidien. Alors Antoine, vous avez rencontré des femmes fortes à la piscine.
Oui, parce que voilà, la question du sport, c'est pas toujours évident. Hein. C'est parce que pour des raisons de santé d'abord, mais aussi à cause du regard, du jugement des autres qui pourraient voilà vous accompagner pendant une activité sportive. Mais il existe une solution mise en place par l'association Allegro Fortissimo. Depuis 5 ans, elle propose des cours d'aquagym réservés aux personnes en surpoids. Une dizaine d'entre elles se retrouvent une fois par semaine dans une piscine de la mairie de Paris pour une heure de sport dans l'eau. Et une fois dans le bassin, elles écoutent attentivement les conseils de leur professeur Sophie Grabmuller.
On fait des grands pas, on sort les bras de l'eau, on déverrouille les épaules. Très bien. Et on va partir en arrière avec les deux bras en arrière. On ramène les deux genoux à la poitrine.
C'est pas trop dur, Catherine, là ?
Non, on est dans l'eau.
C'est physique quand même.
C'est physique, mais on est porté. C'est la seule activité qu'on peut faire. On a l'impression d'être des danseuses de temps en temps. C'est le seul sport qui a aucune contre-indication. Qui est conseillé par tous les médecins.
Et on y va, on ramène les genoux à la poitrine sans toucher les pieds au sol. Allez Martine.
Martine, pourquoi vous avez voulu prendre des cours d'aquagym?
Ça m'a paru tout à fait normal, j'adore l'eau. Et ça m'a beaucoup aidé à me remuscler, à ne pas perdre l'autonomie, les jambes, etc. Enfin, rester musclé.
Est-ce que je peux vous demander votre taille et votre poids, par exemple, ou ça vous embête?
Je mesure 1m60. Et je fais 120 kilos.
En dehors de ce cours ici, vous allez à la piscine ou pas ?
Ça n'a jamais été un problème, même si le regard des autres peut blesser un petit peu des fois, mais...
Ça arrive, ça ?
C'est les enfants, des fois, qui sont les plus nature, en fait, hein, puisque... Oh, la dame, elle est grosse ! Ben oui, ben, la dame, elle est grosse. Et puis, des fois, ils vous posent la question, mais pourquoi t'es comme ça ? Ce qui me gêne le plus, c'est quand je mange quelque chose qui me fait plaisir et que les gens me regardent de travers. J'ai l'impression que c'est une punition, que c'est une accusation, quoi. On a l'impression qu'on n'a pas le droit, quoi.
On y va, on va se mettre le long du mur et on y va bêtement, rapide.
Donc au niveau de l'intensité, c'est vrai que je vais y aller un petit peu moins fort. Je vais faire attention à ça parce qu'au niveau cardio, voilà, ils sont en surpoids, je fais quand même attention à tout ça.
Ok, récupération, pédalo, tranquille.
Vous Sophie, est-ce que je peux vous demander votre taille et votre poids?
Ah, je suis 1m74 et 54 kilos.
Vous n'avez pas du tout de problème de surpoids?
Non.
Et quel est votre regard sur ces femmes qui, elles, sont en surpoids?
Je les accepte telles qu'elles sont, avec leurs différences, et chacune est différente aussi, avec leur caractère, leur identité, c'est pas leur surpoids.
Pas chassé!
Sylvie Ossipoff, vous êtes l'une des responsables de l'association Allegro Fortissimo. Votre association, elle n'est pas un peu sexiste? Il n'y a que des femmes?
Effectivement, il y a rarement des hommes qui viennent nous voir. Parce qu'ici, on accepte vraiment tout le monde. Peut-être qu'ils ont encore plus honte de leur corps que les femmes peuvent l'avoir.
En avant, on monte les deux genoux à la poitrine. Et on pose les pieds au sol à chaque fois. Voilà.
Sandrine, vous, pourquoi vous êtes venue à ces cours d'aquagym?
Pour un bien-être. Bouger sans avoir mal au corps.
Et vous, Micheline?
On se sent bien quand on a fait le cours et ça dure pour toute la semaine.
Je ne sais pas si c'est incongru, mais est-ce que je peux vous demander votre taille et votre poids?
1m63, 119 kilos.
Et vous, Micheline?
1m64 et 116.
Donner votre taille et votre poids, c'est gênant ou pas?
Moi, oui, ça me gêne. Je ne le donne jamais. Personne ne connaît mon poids.
Ah ben, vous me faites un grand honneur, alors.
Oui, oui.
Merci beaucoup.
Et on augmente le rythme!
Le fait de vous retrouver comme ça, dans ce club d'aquagym, entre personnes en surpoids, est-ce que c'est pas rester entre vous, vous exclure vous-même?
C'est la société qui nous exclut avec leur regard. Nous, moi, entre nous, on n'a pas de regard malsain envers nos copines. Donc on n'a pas de regard méchant entre nous. Nous, on se trouve toutes belles, donc il n'y a pas de souci.
Moi, j'ai essayé justement d'aller dans un autre club où il y avait des différences. Je me sentais pas à l'aise. Je trouvais que le regard était insistant sur moi. Donc je n'ai pas continué. Je suis venue à Allegro pour cette raison.
Peut-être qu'avec le temps, les gens... Ils auraient arrêté de vous regarder avec cette condescendance?
Non, pas du tout. J'y crois pas, ça a duré une année. Du début à la fin, ça a été comme ça. Alors non, j'y crois pas. J'y crois pas.
Alors Ali, il faut également savoir que l'association Allegro Fortissimo propose également aux personnes en surpoids des balades en forêt ou encore des vide-dressing de vêtements grande taille à petit prix. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur la page de notre émission Grand Bien Vous Fasse.
Le très bon reportage signé Antoine Lee. Commentaire Sylvie Benkemoun.
Oui, je voudrais commenter puisque j'ai été responsable santé d'Allegro pendant 16 ans. Je peux répondre que peut-être la fréquentation de la piscine par les hommes, ils en ont moins besoin parce qu'ils ont peut-être moins
peur du regard. Et puis, quant à l'inscription des hommes dans l'association, eh bien, l'association présente beaucoup d'activités autour de la beauté et du relooking, ce qui n'intéresse pas les hommes.
Christophe, par courriel, nous dit « N'oubliez pas les hommes. Comme nos compagnes, nous connaissons la haine, le rejet, la condescendance et peut-être le pire, la pitié, ce qui n'est pas la compassion. » Gabriel Dédier.
Oui, ben on ne vous oublie pas. Voilà, on pense à vous.
J'aimerais revenir sur le regard social parfois dur. J'aimerais citer la comédienne Anne Zamberlan, décédée à l'âge de 49 ans. D'ailleurs, vous dédiez votre ouvrage à Anne Zamberlan, Gabriel Dédier. Oui. La rue, je la cite, « La rue est un enfer. L'attaque arrive à coup sûr, insupportable, inhumaine. Ils n'ont droit, les gros, qu'à des regards moqueurs, des colibés, des sarcasmes, du rejet. »
Bah, c'est tout à fait ça. À partir du moment où vous décidez de sortir de chez vous, vous entrez. Enfin, l'espace public, c'est un espace qui est pavé d'embûches. Donc, si c'est pas le colibé, de toute façon, ça va être à un moment une infrastructure qui fait que vous n'allez pas être à votre place.
Est-ce qu'on ne devient pas un peu parano? Parfois, Sylviane Kemoun.
Moi, je pense. Je pense que parfois, les gens regardent parce que quelqu'un de gros, c'est quelqu'un de différent. Et il peut s'étonner en disant, tiens, elle est bien habillée, ou elle a l'air sympathique, ou elle a l'air jolie. Et on est tellement habitué à avoir cette vision négative de la part des autres et de la part de soi-même qu'on projette. Mais je crois que parfois, il y a des regards étonnés, comme pour toutes les différences.
Pardon, Gabriel Dédier.
Ouais, mais il y a vraiment pas de filtre en fait, et enfin je pense que c'est facile aussi de faire la différence entre un regard qui est bienveillant et un regard qui est accusateur.
Alors le problème, Gabriel Dédier, c'est que les attaques sur votre physique déclenchent chez vous des crises de boulimie. À propos d'attaques sur votre physique, je pense à la direction de l'établissement scolaire où vous avez travaillé à Neuilly. Ouais. Avec des remarques absolument incroyables.
Alors eux, ils étaient merveilleux. Enfin, c'était.
Racontez-nous.
Ça a commencé dès le premier jour où l'enseignante. Donc, je travaillais dans un dispositif où en fait, on travaillait avec des élèves qui ont des troubles cognitifs. Et donc, on avait 6 élèves et on était 2 adultes. Et dès le premier jour, la prof, elle pose les choses en me disant, je veux pas travailler avec une grosse. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a été, j'ai eu droit à des réunions où on m'a demandé de partir pendant ma période d'essai. C'était vraiment du quotidien. Puis un jour, elle me dit, devant ses élèves, donc enfin qui eux-mêmes sont stigmatisés parce qu'ils sont dans ce dispositif pour élèves handicapés, et elle me dit que je suis la 7e handicapée de la classe. Voilà, c'est.
Alors, le problème, c'est que ces attaques provoquent, je le disais, des accès de crise de boulimie.
Oh ben, à chaque fois à chaque fois que j'ai une injonction à maigrir, c'est comme si je perdais la boule et je fais autre chose, je fais le contraire.
Nathalie Rigal.
En fait, ce qui est très difficile dans ce stigmate, c'est qu'il est visible comme plein de stigmates, la couleur de la peau, par exemple. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que les personnes grosses sont censées être responsables de leur stigmate. Dans le cas de la couleur de la peau, c'est la génétique. Là, on pense vraiment que les personnes, si elles sont grosses, c'est qu'elles le méritent bien, c'est qu'elles manquent de volonté. Et donc, déjà, c'est dur d'être stigmatisé, mais avec cette notion-là de responsabilisation, alors que le problème du poids n'est pas du tout un problème de volonté, mais de tissu adipeux.
Je voudrais ajouter aussi qu'on en est à la 3e génération de femmes qui ont été mises au régime et que ces femmes-là ont peur de prendre du poids et ont rejeté sur leurs enfants tout ce qu'elles ont, tout ce dégoût d'elles-mêmes et ce dégoût d'être gros.
Marion nous dit par courriel, je suis moi-même en surpoids et je me rends compte que les gens pensent que les personnes grosses mangent trop ou mal, sont fainéantes et ne font pas de sport. Elles sont aussi associées à une classe sociale défavorisée, à la bêtise. Ces clichés sont malheureusement présents au cinéma. Dans un groupe d'enfants, l'enfant gros sera toujours l'idiot. Voilà, donc c'est un courriel assez éclairant, Gabriel Dédier.
Par contre, pour la classe défavorisée, hélas, les statistiques nous disent qu'un smicard sur 4 est obèse.
Alors j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, Gabriel Dédier. Vous étudiez à Montpellier, vous avez 23 ans, et une amie vous conseille de consulter une endocrinologue. Et pour une fois, vous tombez sur un médecin bienveillant à l'hôpital La Péronie, le docteur Draga. Bon, c'est un pseudo, hein. Mais en tout cas, elle vous dit quoi,
ce médecin.
En fait, quand je vais la voir la première fois, je suis incapable de parler. Il y a aucun son qui sort de ma bouche parce que je suis très mal et puis même Sarah, en fait, elle me dit oh, on va y aller tranquille, il y a pas mort d'homme. Et donc, enfin, moi, je lui dis que je suis difforme et tout ça. Elle me dit non. Non, enfin, il y a des mots qu'elle voulait pas que je dise et elle m'a déculpabilisée. Elle m'a expliqué que l'obésité c'était une maladie et que je n'étais pas responsable de mon état mais qu'est-ce que ça fait du bien, enfin, de l'entendre. Enfin, c'était la première fois de ma vie qu'on me le disait. J'avais 23, 24. Et c'était vraiment beaucoup de bien, quoi.
Elle vous dit une chose très simple, il n'existe pas d'aliments qui font grossir ou maigrir. Ce qui entraîne la prise de poids, eh bien, c'est de manger après les signaux de satiété que vous pouvez et que vous mangez malgré tout après.
Oui, en fait, elle m'explique qu'il faut désacraliser les aliments manger du chocolat, ça va pas me rendre difforme.
Sylvie Benkemoun, beaucoup d'obèses sont confrontées à une parole culpabilisante de la part du corps médical.
Absolument. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que souvent, c'est de façon inconsciente. C'est-à-dire que le praticien peut être à la fois bienveillant et puis il va sortir une énormité. Et à ce moment-là, il remet en cause tous ses traitements et la personne ne va plus aller le consulter. Et c'est comme ça que les personnes obèses qui en ont le plus besoin ne vont pas voir les médecins par peur de cette culpabilisation.
Et Mathilde, par courriel, nous dit « Hier, je suis allée chez mon ORL pour des tests d'apnée du sommeil et en me raccompagnant dans le couloir entre deux portes. Le médecin me dit « Il faudra aller voir un nutritionniste, il ne faudra pas oublier. Je sais que je suis trop grosse, mais ce manque de compréhension et cette manière de dire les choses m'a blessée au fond de moi. » Gabriel Dédier.
Ouais, mais je la comprends. Enfin, moi, quand j'ai une douleur aux ovaires et qu'on doit me faire une échographie et qu'on me dit que on va rien voir avec le gras et que je vais gaspiller l'argent de la sécurité sociale, j'ai pas envie d'aller chez le docteur après ça.
Et alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, les médecins ne peuvent pas nier les problèmes de santé liés à l'obésité. Et je cite d'ailleurs un médecin généraliste depuis 20 ans qui nous dit « Je suis effaré par la banalisation progressive du surpoids. Il est certain que pour l'équilibre psychologique des personnes en surpoids, le fait de le banaliser a apporté un soulagement, mais du point de vue médical, c'est une catastrophe, car la banalisation du surpoids chez l'adulte entraîne en plus une banalisation du surpoids chez les enfants, et c'est donc un cercle vicieux. Et évidemment, les conséquences du surpoids sont importantes dans tous les domaines des pathologies cardiaques à la grossesse. Sylvie Kelly.
Je ne crois pas que ce soit la banalisation qui soit dangereuse. Justement, c'est quand on pointe du doigt, parce qu'on va générer des troubles du comportement alimentaire et aggraver la situation. Donc, dans ce qu'on connaît actuellement, l'important, c'est de ne pas aggraver, puisqu'on n'arrive pas à soigner. Donc, il faut faire très attention à la stigmatisation.
Et il y a un temps pour tout. Quand on va soigner une otite, on n'a pas besoin de monter sur une balance, en fait.
Merci beaucoup, Gabriel Dédier. On ne naît pas grosse est publié aux éditions Goutte d'Or. Merci Nathalie Rigal et merci Sylvie Benkemoun. Et juste Thomas qui nous dit qu'il vaut mieux utiliser le terme de miso, qui veut dire haine, plutôt que phobie, car c'est une peur déraisonnée et il est dur d'être obèse physiquement aussi. À suivre, c'est tout de suite là. De la chronique de Julia Fox.
Non, mais là,
il était
là.
Une fois dans le web.
Once upon a time.
Il était une fois.
Les engrenages continuent de tourner, ça ne s'arrête jamais.
In the web.
Dans le web.
Là.
Là.
Là. Bonjour Julia Fox, rebonjour. La force des réseaux sociaux décuple la grossophobie et ça peut entraîner le pire. Et c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin, Julia.
C'est l'histoire de Brandy et ça se passe à Texas City. Brandy est une fille populaire. Au lycée, elle a plein d'amis, des professeurs qui l'aiment aussi. Elle est solaire quand elle sourit beaucoup pour la photo, bien dans sa peau, adepte des réseaux sociaux, bien dans son âge, c'est une ado, bien dans sa vie, elle y raconte tout ce qui fait d'elle une jeune fille épanouie, l'école, les parents, les chéris, et elle poste pas mal de selfies, la tête inclinée sur l'épaule, autour des yeux, un peu de colle, ils sont très bleus, ses longs cheveux glissent dans son cou, et il caresse ses joues un peu trop rebondies pour ceux qui en veulent à Brandy, car l'année de ses 18 ans, elle s'est découverte des ennemis pour la première fois de sa vie, impossible de savoir qui, en revanche, on sait bien pourquoi, c'est qu'elle affiche un petit surpoids, mais que pire, elle n'en rougit pas. À ça, on peut pas l'encaisser. Alors on se met à commenter, à polluer, même à inonder ses pages perso, toutes ses photos, ses comptes sur les réseaux sociaux. Surtout, on ne se mouille pas. Surtout, on ne se nomme pas. Faut penser à rester masqué quand on veut pouvoir déverser sa haine du gros de ce qu'on trouve laid. Et c'est Brandy qui en fait les frais. On lui balance qu'elle est affreuse et disgracieuse, voire monstrueuse. Elle ferait mieux de se cacher, de se taire, se faire oublier. On lui dit comment tu as fait pour toujours pas te faire sauter la cervelle. Ah oui, tu devrais. Brandy rougit quand Brandy lit. Brandy frémit, Brandy fléchit. Mais tiens, la voilà qui sourit. La revoilà, jolie Brandy, car elle tient bon, relève la tête, ignore la meute et toutes ces bêtes qui alors rugissent plus fort, menacent de venir la trouver si elle ose les défier encore. Cette fois, c'est sur son téléphone qu'on éructe et qu'on s'époumonne. C'est des textos dans la journée, c'est des appels, minuit passé. Brandy craque et elle est en pleurs, appelle à l'aide son père, sa sœur, qui ensemble vont aller trouver la directrice de son lycée. C'est impossible, non, pas chez moi, ces choses-là n'arrivent pas. La directrice est désolée, mais ne peut rien faire pour stopper ceux qui harcèlent, ceux qui appellent. En revanche, Brandy peut changer de téléphone, vous verrez, tout ça va bientôt se calmer. Sauf qu'on retrouve son numéro et on recommence à appeler de nuit, de jour, c'est sans arrêt. Ça dure des semaines, ça dure des mois, et comme si ça ne suffisait pas, on vole une photo de Brandy où elle pose un brin midi net, on monte un faux site internet, elle veut du sexe, c'est ce qu'on écrit. Et on ajoute que c'est gratuit, mais on met son vrai numéro, sinon ce serait pas rigolo. La ligne rouge étant franchie, la police de Texas City ouvre une enquête bien décidée à retrouver ce « on » caché. Sauf qu'on n'est toujours pas si con que celui-ci, pour appeler, utilise une application qui ne se laisse pas retracer. Alors la police baisse les bras, elle aussi, elle est désolée. Allez petite, tu verras, un beau jour ça leur passera, un jour oui, ça s'arrêtera. En attendant, eh ben, t'as qu'à serrer les dents et puis sourire. En plus, il est beau ce sourire, nous en priver. Ce serait dommage. Allez petite, allez, courage. Mais Brandy n'y arrive plus, son sourire a bien disparu. Et en voyant qu'on continue à la menacer, l'insulter, Brandy doucement se flétrit, elle dépérit, elle n'en peut plus. Et puis un jour, s'avoue, vaincue, écrit un mail à ses parents, « Je suis désolée, je vous aimais tant. » Les parents foncent à la maison, ne la trouvent pas, dans le salon, grimpent au premier, sa chambre d'ado, c'est là qu'elle s'était réfugiée. À sa main pend un pistolet, elle veut se tuer, déterminée. Elle ne va même pas reculer quand son père vient la supplier. « C'est trop tard, pas. Je dois le faire, c'est aller trop loin cette affaire. Retourne-toi, je t'en supplie, ne regarde pas, je t'en prie. » Le père ne dit rien, médusé, la mère non plus, tétanisée. Et puis le silence et ce bruit, clic. Brandy sourit, elle glisse à terre et c'est fini. Ce que l'on n'a pas su faire taire, ou pas pu, ou bien pas voulu, au moins, elle les entendra plus.
Il était une fois dans le web de Julia Foyce. Demain, on s'intéresse à tous ceux qui quittent les réseaux sociaux. Si vous avez quitté Facebook, Twitter ou encore Instagram, n'hésitez pas à témoigner. Grand-mère vous fasse @radiofrance.com. À la technique ce matin, Juliette Delperroux à suivre. Nagui et sa bande originale.